Françoise Tressard et la belle équipe en piste pour un nouveau numéro des Papous. À l'affiche, un discours de Marguerite D à Patrice D et les petits gestes ou mots de connivence, un inventaire avec Jacques Jouet notamment.
Le téléphone fixe qui sonne toujours au mauvais moment. Je l'appelle le patron, ça permet de crier « Ta gueule patron !» Ça reste entre nous.
Un nouveau feuilleton, Madeleine, pourquoi tu déménages ? Le pamphlet de Jacques Vallée contre la promenade, la masterclass de Patrice Caumont en publié Papucité avec Gabriel Godard au piano et la partie expert contre faussaire avec Patrice Delbourg.
Dans un premier temps, on évoque les 3500 francs.
Oui.
Et puis ensuite, on parle des moments perdus, ces heures creuses comme ça. Mmh. Les piétons un petit peu somnambules dans la ville de Paris. Et qui représente cela parmi nos rédacteurs ?
Oui.
Jacques Vallée, quand même.
Nous sommes ensemble jusqu'à 13h58. Joli dimanche papou avec nous. Merci de votre fidélité et bienvenue à ceux qui nous découvrent. Une émission à retrouver sur franceculture.fr à la page des Papous du jour pour le podcast. Abonnez-vous, c'est facile et c'est gratuit. Et rejoignez notre page Facebook en toute complicité. Vendredi 3 mars dernier, nous étions en public au studio 105 de la Maison de la Radio. Vous avez pu écouter cette soirée en deux dimanches, le grand ménage de printemps et dimanche dans un jardin. Reste le jeu des classes de rhétorique, un jeu improvisé par Odile Conseil avec un sujet, des sujets même proposés par les auditeurs dans la salle. Un bon petit sujet de discours pour elle.
Pas vache, hein, pas trop vache, hein.
Non, pas trop. C'est une jeune femme. Il faut d'abord que ça soit une oratrice. Hein.
Oui.
On ne fait pas parler une femme avec une voix d'homme, et réciproquement.
Alors
Odile, un personnage,
Odile Conseil.
Une situation.
La Rolex avant 50 ans.
La Rolex avant 50 ans.
C'est un sujet de discours, ça. Le discours de départ à la retraite d'une Rolex, c'est ça que vous proposez ?
Ah, c'est pas mal, oui.
Oui.
Ça n'a pas l'air d'inspirer du tout, Odile Conseil. Vous avez le droit de parler, Odile. Non ?
Des idées, monsieur ? Madame, vas-y.
Marguerite Duras qui s'adresse à Patrice Delbourg.
Ah, c'est une vengeance.
Un discours de Marguerite Duras
ça.
À Patrice Delbourg.
Très bien, très bien.
Je reconnais Alice dans la salle qui a été notre stagiaire à Noël. Bonsoir Alice. Alors.
Vous me gâchez mon mois de mars.
Mais elle s'adresse à Patrice Delbourg pour lui faire des reproches.
Un discours de demande en mariage signé Marguerite Duras à Patrice Delbault ? Oui.
Ah, peut-être. Peut-être, c'est pas mal, on progresse.
Allez.
Ça vous va, Odile ?
Ça me va, je rosis un peu d'émotion, mais
bon, bah, allez-y, vous
c'est parfait.
Bon, bah, merci à tous, hein, bravo.
Bravo. Et pour le plaisir, une danse provençale de Henri Tomasi par Gabriel Godard au piano musique, Gabriel. Odile Conseil, vous pouvez nous rappeler le sujet qui vous a été offert ?
Une demande en mariage de Marguerite Duras à Patrice Delbourg.
Ça vous a inspiré ?
Absolument, je suis Marguerite Duras.
Ouais.
Et je ne peux que parler à Delbourg avec mon cœur.
Chouette.
Delbourg, c'est ton nom Delbourg et c'est un nom tout court. Ça rime avec amour, forcément l'amour, Delbourg. Et c'est pour ça qu'ici j'écris ton nom Delbourg. Tu as dit car... Tu me parles, Delbourg, tu me parles comme on parle quand on aime. Tu as dit « L'amour est enfant de poème ». Voilà ce que tu as dit ce jour-là, et j'ai su, comme on sait, qu'il fait chaud quand il fait chaud, qu'il fait froid quand il fait froid. Et parfois qu'il fait tiède le reste du temps. C'était l'été, forcément l'été, il était 10h30 du soir. Tu as dit, je vais t'apprendre l'art d'accommoder l'Everest. Tu l'as dit, oui, comme ça. Tu as dit, où t'as mis le sel ? Tu as dit, où t'as mis l'huile ? Tu as dit, où t'as mis le poivre ? Et j'ai su. J'ai su comme on sait qu'on a faim quand l'estomac crie. Tu parlais de mon fils, Outa, avec la familiarité d'un déjà père. Un père, forcément père. Delbourg, soit mon mari ravi, pas mon mari, mari. Le soir Delbourg, il y aura des soirs, beaucoup de soirs. Nous jouerons aux petits chevaux de Tarquinia. Le jour, il y aura des jours et des jours. Nous les passerons entiers dans les arbres. Nous irons en voyage de noces dans le Pacifique, où vit maman. Elle ne fera pas barrage à notre mariage. Tu m'apprendras les calembours, Delbourg. Je t'achèterai des camemberts. Nous sucerons des carambars. Parfois, l'été, à Gibraltar, la vie avec toi sera Patrice, Delbourg. Oh.
Merci Odile Conseil pour ce bel hommage à Marguerite Duras et à notre Patrice Delbourg. Et place à l'inventaire, répertoriez ce qui nous rassemble ou nous sépare. Le sujet du jour, les mots ou signes de connivence que seuls nos proches comprennent, sorte de sésame pour mieux vivre ensemble. Un sujet proposé par Eva Almassy, avec Jean-Bernard Pouy, Jacques Vallée, Patrice Delbourg, Lucas Fournier et Jacques Jouet qui ouvre la liste.
Il y a deux ou trois personnes au monde auxquelles, lorsque j'ai l'impression qu'ils ou elles se sont mis sur leur 31, je sors comme une mitraillette le fameux « Je vois que tu t'es miché en gigole pince pour t'étarer sur de la surpige » contre vous, vous vous souvenez ?
Non.
« Passe-muraille » de Marcel Aimé.
Ah.
Et qui veut dire « Tu t'es déguisé en élégant pour confondre les inspecteurs de la sûreté. »
Magnifique. Lucas ?
Moi, je parle une langue secrète tout en connivence qu'on pratique surtout à Bruxelles, autour du rond-point Schuman, là où siègent les institutions européennes, langue que les initiés connaissent sous le nom de « européen ». Alors, quand je parle européen, je dis « non-paper ». Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de papier. Non, un non-paper, c'est comme son nom l'indique, un papier qui n'existe pas, une sorte de yéti administratif, un DAHU législatif, un document secret qu'on n'a pas le droit de divulguer. Bien sûr, on ne doit pas confondre non-paper et livre blanc, qui lui existe. Donc je résume, un non-paper, c'est un papier avec du texte dessus qu'officiellement personne n'est censé avoir. Un livre blanc, c'est un papier, avec du texte dessus aussi, que tout le monde possède. Je crois que j'ai été clair.
C'est subtil, Jacques Vallée.
Ordinairement, je n'utilise pas dans mon quotidien de petits mots qui créent une connivence avec qui que ce soit.
Non.
Mais j'ai vécu 10 ans avec une chatte qu'un ami avait appelée Mimi. Mm. Et moi, je l'ai sans cesse désignée par toutes sortes de mots inventés, tendres. Je l'appelais Boubou, Boudouille. Et quand elle avait ses chaleurs, Groudouille, parfois Rapounette, ou Crapounette, ou Boudounette, ou Crabouille. Finalement, c'était interminable le nombre de noms que j'inventais pour elle.
Rapounette, c'est mignon, je trouve.
Oui.
C'est charmant, Patrice Delvaux.
C'est mignon, Rapounette. J'aime avec des amis m'attabler à l'arrière-table d'un bistrot et puis refaire le monde en égrenant des mots de code, là, comme des maquisards sous l'occupation. Par exemple, on se met autour d'un bon petit brut de brut et on égrène le 11 de Reims en 1960. Jonquet, Bliard, Pinverne, Leron, Siatka, Rodzig, Wendling, Wisniewski et bien sûr Vincent, Coppa, Fontaine, Piantoni. Et on est heureux.
Ah ouais. La journée est belle.
Ouais, la journée est sauvée.
Jean-Bernard Pouy.
Pendant un repas chez vous ou ailleurs, avec plein d'amis et puis des vagues relations, comment dire à un moment donné à votre compagnon qu'un des convives est un vrai con ? Alors, on ne peut pas le faire comme ça, évidemment. Donc, je me débrouille pour prendre la parole et je demande à ce fâcheux donc, s'il a lu le traité du zen et de la réparation des mobilettes de Robert Pirsig, édité en 74, qui est un bouquin mythique. Il n'y a que ceux qui me connaissent bien qui ne relèvent pas. Comment savoir que votre compagnon a compris votre allusion ? C'est simple, il doit préciser que vous avez raison en vous corrigeant. Car le titre exact du fameux bouquin est « Traité du zen et de la réparation des motocyclettes ». Alors si jamais il me dit ça, je sais qu'il est d'accord avec moi. Le convive est un vrai imbécile.
Allons bon, Jacques Jouvet, vous avez hoché la tête.
J'ai la même situation, en fait. C'était le même dîner où j'ai retrouvé Jean-Louis Barnard. Alors parfois, vous êtes à table, vous êtes invité à un dîner, c'est interminable, et vous voulez interroger discrètement votre compagne pour savoir si elle trouve le dîner aussi interminable que vous-même. Alors il faut une formule secrète, un code. Je lance à ce moment-là, n'accablez point, madame, un prince malheureux. De deux choses l'une, ou bien elle répond, qu'est-ce qui te prend ? Et là, je sais que je dois patienter encore. Et si elle répond, il ne faut point ici nous attendrir tous deux, alors sans tarder, nous demandons la route à la maîtresse de maison.
Ça, c'est du code. Eval Massy.
Cet Afsanob.
Pardon ?
Cet Afsanob, c'est ainsi que je souhaite bonne fête aux gens qui me connaissent. Parce qu'à travers ma fenêtre, j'ai vu des guirlandes lumineuses à l'envers. Et donc, cet Afsanob, c'est bonne fête à l'envers.
Oh.
Et donc, c'est devenu comme ça un code personnel. Cet Afsanob, les amis.
C'est pas facile à prononcer, en tout cas. Lucas ?
Alors, quand je parle européen, je rédige des Memorandum of Understatement. On dit aussi MOU. Pas mou, hein.
Non.
MOU. Un Memorandum of Understatement, ce n'est pas le souvenir de sous-entendu, non. Ce n'est pas non plus un verbatim cher à Attali. Un Memorandum of Understatement, c'est un texte lourd, détaillé, assez ennuyeux, non, très ennuyeux, souvent en anglais. Les Anglais vont nous quitter, mais ils nous laissent leur langue. C'est en fait un mode d'emploi des relations internationales, économiques ou humaines. François Joseph, l'empereur, aurait pu rédiger un MOU entre Autriche et Hongrie, mais en allemand ou en hongrois. Vous, Françoise, vous pourriez très bien rédiger un MOU, Memorandum of Understatement, entre nous et vous.
Je vais essayer.
Un dapapou code, une liste des tout doux, pas très doux, non, tout doux à faire. Articulez, mettez un sourire dans votre voix, ne bafouillez pas. Un MOU, je crois que tout est clair à présent.
Oui, je vais m'y mettre. Patrice.
Avec quelques amis, j'aime à m'attabler dans une arrière-salle de bistrot, au Balto, par exemple, rue Rambuteau. Il fait froid dehors, les nouvelles sont maussades, et entre nous, on se donne des bribes des tontons flingueurs. Tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown. Je vais lui montrer ce qui sait, Raoul, aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Il y a de la pomme, une boisson d'homme. J'en te connais que ça a rendu aveugle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. On est bien.
Pendant une soirée, dès que la conversation devient trop politique et gênante, c'est-à-dire le moment où on s'aperçoit qu'il y a pas mal de convives qui sont absolument du bord inverse où vous êtes, c'est extrêmement gênant. Donc j'ai l'habitude de parler de la mort de mon père, avec force détails dramatiques, si possible. Ça calme absolument tout le monde.
Et bien, alors ça rejoint ce que Patrice a cité. Moi, j'ai une réplique. Et moi, Zatan, ça vient de Princess Bride, le film de Rob Reiner avec Robin Wright. Et le personnage s'appelle Vidzini, qui dit toujours ça. Et moi, Zatan. Et de ce film, j'ai offert des dizaines de DVD aux enfants de tous mes amis. Et donc, eux aussi, quand on est en retard, ils disent, et moi, Zatan.
C'est joli, moi, j'ai pas vu le film. Vous l'avez vu, Jacques Jouvet ?
Non, je l'ai pas vu.
Je vais encore des cadeaux à faire.
Le téléphone fixe, qui sonne toujours au mauvais moment. Je l'appelle le patron. Ça permet de crier « Ta gueule, patron !» Ça reste entre nous. Parfois, c'est « Bon Dieu le Père !» À ce moment-là, je crie « Élie, tu pourrais pas m'abandonner ?»
On est toujours en Europe.
Alors, quand je parle européen, je discute avec des shadow rapporteurs. Alors, ce n'est pas un instrument, le shadow rapporteur, de géométrie pour dessiner des ombres. Non, il s'agit d'un individu qui a une mission officielle, mais pas complètement officielle. En Angleterre, on dit un shadow cabinet pour désigner les ministres qui ne le sont pas encore et qui le deviendront un jour si leur parti gagne les élections. Alors en Angleterre, on parle de cabinet fantôme parce que l'Écosse n'est pas loin. Mais à Bruxelles, on ne parle pas de fantôme, non. Décidément, on préfère parler anglais. Shadow rapporteur. Voilà, je crois que tout est clair à présent.
J'ai revu avec mes enfants beaucoup de films de Laurel et Hardy, notamment Tête de pioche.
Ouais.
C'est un film qui est sorti en 1938. Et Hardy se fait insulter par un voisin. Laurel lui dit « Tu devrais régler ça dans la rue. » Et en descendant tous les étages, je leur ai dit à chaque personne qui me croise, il va y avoir de la bagarre, il va y avoir de la bagarre. Et tous les gens leur emboîtent le pas, et c'est bientôt une foule de gens qui les suit. Et c'est devenu entre nous une plaisanterie dès que quelqu'un s'énerve un peu, on dit, il va y avoir de la bagarre.
Et on a l'image, tout de suite. Patrice ?
Avec des amis, moi j'aime m'attabler dans des arrières-salles de bistrot, au Nemrod par exemple, rue du Roi de Sicile, le Nemrod. Mais on n'évoque pas des poètes, ça c'est plus tard. Donc là on évoque, devant Force Spritz, une boisson qui devient à la mode, une liste de chanteurs oubliés des années 60.
Oh là là.
Et on est bien.
Ne le fais pas.
Non, pitié.
Non, s'il te plaît.
Oh, laissez-moi.
Pas aujourd'hui.
Thierry Pastor.
Des Rémois, c'est des Rémois.
Corinne Charby, Christine Lebaille, Jackie Moulière, René Joly, Patrick Abrial, Jean-Claude Anou, Dominique Walter, Billy Bridge, Marianne Mill, Chantal Kelly. Et on est bien.
Ah ouais. Vous ne vous sentez pas trop seul, non?
De plus en plus.
À suivre dimanche prochain.
Je chante un baiser, je chante un baiser osé, sur mes lèvres déposées, par une inconnue que j'ai croisée. Je chante un baiser, marchant dans la brume, le cœur démoli par une, sur le chemin des dunes, la plage de Malo vraie dune, la mer du Nord en hiver. Sortaient ces éléphants gris verts, des adamos passaient bien couverts, donnant à la plage son caractère naïf et sincère. Le vent de Belgique transportait de la musique, des flonflons à la française, des fancifères à la fraise. Elle s'est avancée, rien n'avait été organisé. Autour de moi, elle a mis ses bras croisés et ses yeux se sont fermés. Jugez ma fortune sous l'écharpe, les boucles brunes. C'est vrai qu'en blonde, j'ai des lacunes. En blonde, j'ai des lacunes. Oh, le grand air, tournez le vent, la dune à l'envers. Tournez le ciel et tournez la terre. Tournez, tournez le grand air. La Belgique locale envoyait son ambiance musicale, de flonflon à la française, de fancifère à la fraise. Dun, 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 dun.
Le baiser d'Alain Souchon.
Les papousses dans la tête, et c'est sur France Culture.
Et c'est vrai, Violaine, et c'est l'heure du feuilleton, un nouveau feuilleton, proposé par Jacques Jouet. Après les amours d'Annette et les inventions de Léonard, vous vous souvenez, le petit Vinci, qui avait une telle imagination, selon Jacques Jouet, il aurait même inventé le bikini, ce qui aurait à la fois ravi et fait rougir sa maman. Alors un nouveau personnage dans la galerie des portraits chroniques de Gigi, oui, confidence entre nous, c'est ainsi qu'on nomme Jacques Jouet. Premier épisode, le titre, Jacques.
Madeleine, mais pourquoi tu déménages? Et pour aller où? T'es pas bien là où tu es?
Non.
Madeleine est une femme dans le genre de Baudelaire. Son mari se prénomme Charles. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas, disait le poète du spleen de Paris. Oui, oui, il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas, dixit Baudelaire. C'est une référence, non? Et cette phrase convient à merveille à Madeleine. Elle remercie régulièrement son mari de l'avoir écrite. Mais ce n'est pas moi, proteste-t-il. Ta ta ta, tu te prénommes Charles comme Baudelaire, je t'ai choisi pour ça. Je ne veux pas pourquoi tu vas te vexer si c'est à toi que j'attribue quelques-uns des plus beaux poèmes de la langue française. Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. C'est toi qui l'as dit. Et puis ne détourne pas la conversation, nous allons déménager. Mais Madeleine, nous sommes très bien ici. Qu'est-ce que tu veux trouver mieux que... À quoi bon aller chercher plus loin? Pas question. La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur d'un mortel. Avant de ne plus la reconnaître, notre ville, il faut en essayer une autre, Charles. Lorsque Madeleine se met à appeler Charles, Charles sait que rien ne sert de lutter. Il préfère encore être Baudelaire plutôt que Poe. Edgar Allan. Quand il s'entend appeler Charles, c'est comme s'il devenait Edgar Poe ou Charles Dickens. Charles songe avec angoisse qu'il va devoir faire ses cartons. Madeleine a choisi un point de chute. Il faut obtempérer. Il faut déménager. Déménager est la chose que Charles, comme Charles d'ailleurs, déteste le plus au monde. Mais Charles, qui ne sait pas résister à Madeleine, sait bien qu'il va rentrer la tête dans les épaules, se plier en deux et se lover dans un carton au bas fragile. Et les voilà partis brusquement, les voilà partis pour Issoudun. Nous serons Isole-du-Noix ou nous ne serons rien. Madeleine a balayé sur le net les meilleures destinations, les lieux qui ont le vent en poupe et toutes les possibilités immobilières. Le logiciel a fourni plusieurs noms, mais le premier qui est venu, Issoudun. Tu vois bien que c'est pas cher, dit Madeleine. On aura 4 pièces et un petit jardin, depuis le temps que tu en rêves, aussi cher qu'un 2 mètres carrés à Paris dans le 19e. Et tu sais bien qu'avec nos ordinateurs aujourd'hui, on peut travailler partout. Il n'y aura plus la tour Eiffel, mais il y aura la tour blanche. La tour blanche ? Charles rêve d'un restaurant gastronomique. Charles rêve de la cave et du sommelier d'un restaurant gastronomique qui se nomme la tour blanche. Ah non, dit Madeleine, non, c'est seulement une tour médiévale avec des murs de 4 mètres. C'est pas très haut, 4 mètres pour une tour. 4 mètres d'épaisseur, pas de hauteur. Fais un peu d'effort tout de même. Mais on ne va pas habiter dans une tour du XIIe siècle dont les murs font 4 mètres d'épaisseur tout de même. Il ne s'agit pas d'habiter la tour blanche, mon ami, la tour blanche, c'est une curiosité. Oh merde, dit Charles, la voix tellement basse que Madeleine ne l'entend pas. Issoudun, rêve Madeleine. Quel beau nom, bien moderne et dynamique. Issoudun, on dirait un site internet d'urgence. Regarde, on peut y aller par le train. Ce n'est pas direct, pas de TGV, on sera bien tranquille. Oh yes, t'as raison, c'est cool, dit Charles. Et ils y vont. Madeleine déménage d'un cœur joyeux. Il faut lui reconnaître une chose à Madeleine, c'est qu'elle s'occupe de tout. Résilier le bail, récupérer la caution, verser la caution, signer le nouveau bail... Charles déménage, la mort dans l'âme. Ça, pour être tranquille, on sera tranquille. Ni une ni deux. Quoi ni une ni deux? Tu dis ça à cause de Fred? Fred? Fred 2. Quoi Fred 2? Fred 2, Issoudun, Charles, le musée de l'Hospice Saint-Roch, l'extraordinaire musée d'art ancien et contemporain qui expose la plus extraordinaire collection de gravures extraordinaires et d'extraordinaires peintures de Fred 2. Sans oublier les collections africaines, océaniennes, à donations à Ouvoukil, entrée gratuite, exactement comme à Londres. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Alors, Charles et Charles, d'un commun accord, se dirigent vers la bibliothèque dont ils extraient un livre, Honoré de Balzac, La Rabouilleuse. Il ouvre la page marquée par un signet et dit « Issoudun, il est dit dans Balzac qu'on s'y ennuie à mourir. » C'est vieux de 2 siècles, dit Madeleine. C'est des bêtises. La Rabouilleuse, c'est celle qui rabouille la vase pour faire s'enfuir les écrevisses. Il me semble que tu adores les écrevisses. Ça, c'est vrai, dit Charles. Alors, en route, ils y vont. Madeleine est heureuse, elle s'installe. Elle est heureuse quand elle s'installe. Elle est toujours heureuse le temps qu'elle s'installe. Et Charles s'y fait, il est heureux. Il n'est pas emmerdant, Charles. Il s'y fait très bien. Il est heureux dès qu'il est installé. Il fait son trou, il se met à apprécier Fred 2. Il mange des écrevisses. Il va voir tous les jours si la tour blanche ne s'est pas changée en restaurant. Il est bien. Un matin qu'il part pour sa promenade quotidienne, Madeleine lui dit « Charles, oui mon cœur, tu vas en ville ?» Nous sommes en ville, mon cœur. Oui, je vais dire, tu descends dans la rue principale. Mais nous sommes dans la rue principale, mon cœur. Il n'y en a pas tant que ça de rue principale à Issoudun. Tu passes devant la maison de la presse. Oui. Alors achète-moi la revue de l'immobilier, tu veux?
À suivre. Valse de Henri Vangel. par Gabriel Godard. Alors, il y en a qui déménagent et d'autres plus sédentaires, comme Jacques Vallée, qui préfèrent pester sur leur banc contre ceux qui les énervent. Pester, mais comme Jacques est un littéraire, il peste par écrit sur ces sujets d'agacement. Il fait des pamphlets. Ah, vous êtes contre quoi aujourd'hui, Jacques ?
Alors, je suis contre la promenade.
Ah bon ?
Oui, je pense à tous ces malheureux écrivains qui chantent l'agrément des promenades. À Rousseau, le rêveur solitaire. Les loisirs de mes promenades journalières ont souvent été remplis de contemplations charmantes. À Stendhal, ce dilettante mettant à profit ses voyages pour jouer le guide dans Rome. Ou encore à l'angoissée Virginia Woolf, proposant de suivre le flambeau de sa beauté pour nous mener au phare qui s'illumine chaque soir dans l'une des îles Hébrides.
Quand même, promenade au phare, c'est un titre magnifique.
Je suis contre la promenade, madame. Ah, ils peuvent bien insister sur le ravissement de la chose. Rabâcher qu'ils viennent admirer les beautés de la nature ou le pittoresque, goûter la douce paix des choses, moi, ça me déprime, ça me navre. Je n'aime pas me promener, je m'emmerde. De déambuler ainsi, sans but, hésitant, l'œil glauque, l'esprit vide, ça tient d'un piétinement abruti de bestiaux ou de l'embrigadement militaire si l'on doit suivre en groupe un itinéraire balisé, le nez sur les fesses de celui qui précède et mettant ses pas dans les pas d'un autre. Qu'elle soit randonnée, marche ou balade, la promenade pour moi a toujours quelque chose de carcéral.
Oh.
Très tôt, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une sorte de châtiment à tourner ainsi en rond dans la nature. Je me souviens de pensionnaires qui ne rentraient pas chez eux le week-end et qu'on m'entraînait en rang dans des marches forcées dominicales. C'est comme si l'image de la ronde des prisonniers de Vincent van Gogh me collait à l'âme. Cette image m'accompagne chaque fois que je dois me promener. Survient alors un sentiment de vacuité, d'angoisse. Je me souviens d'une balade dans l'île de Groix, partant de Portudy pour aller découvrir la côte opposée, le trou de l'enfer. L'enfer n'était pas cette grotte lugubre creusée dans une faille, ces misérables rochers battus par la mer, mais cette promenade stupide, interminable. Dirais-je encore le charme des promenades en famille ?
Oui.
La tranche que tirent ces jeunes couples qui errent un dimanche après-midi derrière une poussette sur le boulevard des Batignolles ou de Charonne. Quant à se promener dans la campagne profonde, par une journée grise, pluvieuse, n'en parlons pas. La rêverie sous les grands arbres s'échoue, mais ça va un moment. Comme le chante Hölderlin dans son poème « La promenade à la campagne », l'air reste figé, c'est couvert aujourd'hui. C'est ainsi que dans l'âge de plomb. Ah, vraiment, rien ne rachète ce ciel plombé, ce paysage humide, cet horizon pelé. Flaubert a beau affirmer qu'une promenade facilite sa digestion. Moi, ça me reste sur l'estomac. Finalement, le seul promeneur que j'ai suivi avec plaisir, c'est Rémy de Gourmont dans ses promenades littéraires. Et je rejoins les hiboux de Baudelaire qui enseignent qu'avec le mouvement, on porte le châtiment d'avoir voulu changer de place. Donc, nos promenades, never.
Ah ouais. Mais vous devez avoir de mauvais souvenirs d'enfance. C'est vous qui étiez dans la poussette, je suppose, avec le jeune couple qui s'ennuyait, non ?
Non, je regarde autour de moi de temps en temps.
Mais vous avez des bonnes chaussures de marche.
Mais ce n'est pas une histoire de chaussures, c'est une histoire de tête.
T'as un déambulateur. Et vous avez été pensionnaire, je suppose.
Oui.
Ah, voilà, tout s'explique.
En casquette à boutons dorés.
Tout s'explique, évidemment. Hervé Le Tellier, vous avez un point de vue sur la promenade.
Sur la promenade, oui.
Vous aimez.
Je suis le boulevard Bourdon.
Ah, donc peut-être vous n'aimez pas être piétiné.
Et oui. Comme il fait une chaleur de 33 degrés, eh bien je me trouve absolument désert.
Oui.
Ça me fout le cafard. D'habitude, je suis un lieu de promenade. Des landaux, des familles, des philosophes. Mais là, il fait tellement chaud. Personne. Je suis jumelé avec le Friedrichsbrücke à Königsberg. Alors, le Friedrichsbrücke, il m'a dit qu'il y avait un type, il passait tous les jours à 14h43. C'est bien simple, le soleil se règle sur lui pour être à l'heure. Ouais, ça défie la raison pure. Hein. Ah la vache, qu'est-ce qu'il fait chaud. Oh, j'en ai du bitume qui fond. Ah bah tiens, voilà un type qui vient du Jardin des Plantes. Et un autre qui vient de la Bastille. Ah, on voit que hein, le soleil est si haut qu'ils ont à peine une ombre. Ils s'asseyent sur un banc. Le banc, c'est le canapé du promeneur, c'est l'attracteur universel du type qui marche sans but. Tiens, une promenade sans banc, c'est un repas sans fromage, c'est un baiser sans moustache. Moi, j'aime bien les promeneurs, ça chatouille un peu. J'ai une copine grecque à Athènes, c'est l'avenue Athéna. Elle a bien connu un type qui marchait il y a longtemps, en général accompagné. Je sais plus son nom, un rapport avec les chiens, sa crotte, je sais plus.
Sa crotte.
Tiens, ah ben les deux types qui se causent sur le banc, ben, qu'est-ce qui fait chaud? Je vais dormir un peu. Ah, ça c'est une bonne idée. Je vais dormir une petite sieste et puis après, zou, au lit. Ben, vous me raconterez ce que ça donne. Hein. Parfois, les promenades, ça débouche sur des chefs-d'œuvre. Enfin, c'est peut-être une idée reçue.
Vacances à la mer de Michel Jonas, revue par Brigitte. Vous écoutez France Culture, des papous dans la tête, au micro Françoise Trossard. Et la bande des papous du jour à suivre, la publipapoucité et une partie d'experts contre faussaires, notre jeu de bluff et de pastiche sur une œuvre proposée aujourd'hui par Odile Conseil. D'abord, la pub masterclass de Patrice Caumont, culturelle et décalée forcément. Avec Patrice, donc, Jeanne Carillon, Eva Almassy, Hervé Le Tellier et Gabriel Godard au piano, musique.
Eh bien, je vous demanderai le silence. Pour notre masterclass, la pianiste est prête. Aujourd'hui, c'est Gabriel Godard qui partage plus que ses initiales avec Glenn Gould. Il y en a qui, pris de court, prétendront que c'est un peu bref pour émettre un avis. Prolongeons donc un peu, s'il vous plaît. Il y en a qui diront que c'est un bon morceau, comme chez Le Boucher, et qu'il est surtout très bien placé, dans La Poire, comme chez Satie.
C'est sûr que c'est une sacrée pièce.
Ah, pour ça, monsieur, c'est pas haché, hein. C'est vrai que c'est tendre.
C'est sûr, c'est pas de la bavette.
Bon, s'il vous plaît, reprenons. Alors, qu'en dit-on ?
C'est beau, monsieur.
Ouais, elle touche au piano, hein.
C'est trop mélodieux.
Elle nous joue un petit air de valse.
Enfin, on progresse.
Elle assure en wifi.
Et toi, t'as le wifi ?
Allons, faites pas le dos rond.
Ah oui, c'est un rondo.
Mais non, c'est un solo.
Certes, certes.
Elle joue bien, la pianiste. On dirait un vrai disque.
Sur ses bombés graves, on dirait Diana Krall.
Oui, sans doute. Mais encore.
Il y a pas mal de do dièse.
Au reste, le do collé au sol.
Rien de plus essentiel ne vous a frappé ?
Si, monsieur, la pianiste est super bien gaulée.
Reprenons encore une fois.
N'empêche que la pianiste, elle ressemble trop à Yannick Roll.
Attention, si vous continuez, ça va valser. Je ne disais pas ça pour vous, Gabriel. Bon, j'espère que ce petit contretemps vous aura permis de noter l'écart entre Chopin et Satie.
Ça va plus vite.
Non, ça va moins vite.
C'est bien pianoté.
On n'a pas noté toutes les notes.
Oui, monsieur, il y a moins de notes que dans le premier.
On est loin du compte.
Essayons autre chose. Alors, qu'en dites-vous ? Et d'abord, c'est de qui ?
C'est pas de Bach.
Ah, fastoche, Bach n'est pas au programme.
S'il vous plaît, Ré, ça se termine en Ré. Et c'est donc de ?
De Fauré.
Vous avez tout faux. Écoutez mieux. Merci, madame. Alors, vous voyez bien que ce n'est pas de Fauré, cet accord. C'est de Bussy.
Ah bah oui, Bussy. Bussy, je connais, c'est lui qui a composé La mer pour traîner.
Oui, mais enfin, Bussy, c'est pas au programme non plus.
Moi, c'était de Ravel ou du Boléro que là, je suis.
Eh bien, justement, abordons Ravel par cet extrait de Jeu d'eau.
Ah, pour ma part, j'adore Ravel.
C'est trop chouette, j'en ai la larme à l'œil.
Normal, l'eau de Ravel, ça pique les yeux.
Ravel, c'est de la dynamique des fluides.
Moi, c'est Satie que je kiffe.
Eh bien, mon petit Hervé, passez donc au piano pour une gymnopédie. C'est un bon exercice.
Ouais, je peux pas, monsieur, je suis dispensé de gym.
Bon, alors Jeanne, s'il vous plaît. Jeanne, on dit que vous avez l'oreille absolue. Eh bien, Eva, dites à Jeanne ou faites-lui signe d'enlever son casque, please.
Si vous aussi vous voulez mieux comprendre l'art difficile du piano, le premier fascicule de la collection Monster Class. Le piano facile est en vente chez votre marchand de journaux.
Avec dans sa pochette une partition de Debussy, un CD de Ravel, plus un joli classeur pour vos futures partitions.
Et surtout vos deux magnifiques premières touches, une blanche et une noire, ainsi que le manuel complet pour réussir le montage intégral de votre futur piano.
Monsterclass, 4,50€ seulement pour le premier numéro.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Un jeu de bluff et de pastiche qui opposera les experts Patrice Delbourg et Jacques Jouet, tous deux fins connaisseurs du style des grands auteurs. À défaut d'avoir tout lu, ils savent parfois discerner le vrai du faux, démasquer les imitateurs. Mais voilà, c'est un jeu difficile. Ils seront donc opposés à trois faussaires, Gérard Mordier, Jacques Vallée et Patrick Beignet, qui, à défaut d'avoir tout lu, eux aussi peuvent très bien masquer leur tic d'écriture pour mieux emprunter ceux de l'auteur en jeu. Odile Conseil, elle, est dans la position délicieuse de celle qui a choisi et l'auteur et l'œuvre en jeu, pour laquelle elle a préparé un petit résumé. C'est bien ça, Odile ?
C'est exact.
Alors, c'est quoi ?
Alors, c'est une nouvelle d'un certain Marcel Aimé, que vous devez tous connaître, je pense.
Marcel Aimé, oui, peut-être pas de nouvelle.
Il s'agit donc d'une nouvelle de Marcel Aimé, qui s'intitule « Le faux policier », qui date de 1947 et qui a été publié dans le recueil « Vin de Paris », ce même VINS, ce même recueil dans lequel on trouve « La traversée de Paris » également.
Ah, très bien, oui.
Donc cette nouvelle est plutôt courte, elle fait une dizaine de pages dans le recueil des nouvelles de Marcel Aimé publié chez Quarto Gallimard, et elle met en scène un homme, Martin, un brave homme, qui exerce la profession d'aide comptable. Mais, pour nourrir ses trois enfants, l'histoire, je précise, se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'adonne à la profession de faux policier. Donc il s'agit d'aller frapper à la porte de trafiquants notoires du marché noir, de fonctionnaires véreux, voire, écrit Marcel Aimé, de juifs en difficulté, et d'acheter son silence en se faisant passer pour un policier corruptible. Donc tout ça fonctionne très bien, jusqu'à ce que se produisent deux événements. Le premier, c'est qu'avec la fin de la guerre, Martin, un brave homme, je vous le rappelle, pense qu'il va pouvoir arrêter ce métier de faux policier et se consacrer totalement à ses additions dans la maison de commerce de la rue Réaumur qu'il emploie. Mais sa femme, qui a pris goût au luxe, ne l'entend pas de cette oreille. Elle fait des dépenses qui forcent notre héros à persévérer dans cette activité. Donc, cela lui gâche le plaisir. Et pour se venger de cette tristesse qu'il ressent, il se met à tuer tous ceux qu'il rançonne, faisant en quelque sorte profession de justicier. Une sorte de Dexter, si vous voulez. Le deuxième événement, c'est l'amour qui s'empare de Martin le jour où il va frapper vengeur à la porte d'une femme qui avait livré aux Allemands des secrets artistiques concernant la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Je vous dis ça juste pour la petite histoire. Donc cet amour va conduire Martin à sa perte. Il est arrêté, mais jugé uniquement sur ses méfaits de faux policier rançonneur, son avocat ayant prudemment caché à la cour les exploits de tueur en série de son client.
Habile.
Voilà.
Le début, donc.
Alors, le début présente Martin, sa situation familiale et professionnelle modeste et la nécessité qu'il a de pratiquer un deuxième métier.
Oui. Et la fin ?
La fin, donc, quelques lignes en guise de conclusion qui évoquent la condamnation de Martin avec une morale à la Marcel Aimé, pas forcément très morale.
Très bien, ça paraît très amusant à pasticher tout ça, non ? Qu'est-ce que vous en pensez, ami Faussaire ? Vous êtes en train de prendre des notes comme des fous, Gérard Mordillat, familier de Marcel Aimé ?
Oui, mais c'est toujours très dur de pasticher Marcel Aimé, parce qu'il écrit si bien qu'on se fait tout de suite prendre la main dans le sac de nos insuffisances.
Mais non, vous n'êtes pas mauvais du tout. Pourquoi vous flagellez-vous ? Jacques Vallée à l'aise, Patrick
oui,
Beignet, tout va bien ?
Très à l'aise, j'ai quasiment jamais lu Marcel Aimé.
Exactement. Une question à poser ? Ou servi ? Non, vous, non. Patrick, pas de questions, surtout pas. Et nos amis experts, Jacques Jouet, Patrice Delbourg. Patrice Delbourg, je sais que vous aimez beaucoup Marcel Aimé, mais vous ne pouvez pas prétendre tout avoir lu et tout connaître par cœur.
Non. Mais c'est vrai, question style, c'est les talons or à Breteuil.
Bon, donc vous serez jugé sur le style, Jacques Jouet ? Une question ?
Non, pas de question.
Pas de question, tout le monde est très à l'aise. C'est parti, vous écrivez en une petite demi-heure ce que vous pensez être le début et la fin du faux policier de Marcel Aimé. Bonne chance. Gérard Mordillat, Jacques Vallée, Patrick Beignet ont donc travaillé avec ardeur, flamme et amour sur Marcel Aimé, puisque vous aimez tous Marcel Aimé. Et vous vous êtes dit, bah voilà, je tente d'imiter le style de Marcel Aimé. Alors, j'ai en main les textes que vous avez écrits, ainsi que le vrai Marcel Aimé. Je vais distribuer pour que nos amis experts Jacques Jouet et Patrice Delbourg puissent entendre ces textes et dire de qui est chacun d'entre eux. D'accord ?
Oui.
Vous avez l'air pétrifié, Jacques Jouet. Allez, chacun prend un texte, et moi aussi, au hasard. Ben, c'est parti, on écoute un premier texte, il nous est lu par Gérard Mordillat.
Le début. Martin occupait la profession d'aide-comptable dans une officine au deuxième étage de la rue Réaumur. Ses maigres émoluments ne suffisant pas à nourrir femmes et enfants, il s'inventa policier pour améliorer l'ordinaire.
Voilà, ça ressemble bien aux consignes qui ont été données par Odile Conseil.
C'est même très fidèle.
Très fidèle.
La fin. Martin n'entendit pas le président du tribunal l'accuser d'avoir souillé l'honneur de la police et trahi les siens. Il reçut la sentence sans broncher, 3 ans ferme. Ça lui ferait des vacances avant de se remettre au travail.
Oui. Ça fait des bonnes vacances quand même, hein, 3 ans ferme. Alors, première impression, Patrice Delbourg.
C'est quasiment parfait. Et hélas, il y a quelque chose qui brusquement cloche.
Ah.
souiller l'honneur de la police qui ne peut guère être dans la prose de notre auteur.
Marcel Aimé n'aurait pas pu écrire ça, qu'est-ce qu'il aurait dit ?
Il aurait eu quelque chose d'un petit peu plus acide, un peu plus coruscant, désagréable. C'est vraiment un truc de fonctionnaire, souiller l'honneur de la police.
Ah,
oui.
Donc vous écartez d'entrée de jeu la possibilité de Marcel Aimé ?
J'écarte un peu, oui.
Jacques Jouet.
Non, moi je l'écarte pas du tout, parce que ça peut être ironique, cette petite fin sur la police, ça me gêne pas. Non, il y a une écriture très impassible pour un début de nouvelle et une fin de nouvelle qui pourrait être tout à fait du Marcel Aimé.
Impassible, vous dites.
Oui, c'est très... Oui, une écriture...
Il n'y a pas d'affect.
Il n'y a aucun affect, c'est des faits, simplement.
Oui. Bon,
ça donc, peut être du Marcel Aimé. Hein.
Ça pourrait être pour Jacques Jouet, ça ne peut pas être pour Patrice Delbourg, qui aura le droit de changer d'avis, évidemment. Une deuxième lecture qui est proposée par Jacques Vallée.
Petit employé dans une maison de commerce de la rue Réaumur, Martin avait du mal à joindre les deux bouts. Aussi, soucieux de protéger sa femme et ses deux enfants, il éprouva le besoin de prolonger son activité par un second métier plus lucratif.
C'est très factuel aussi.
Oui, mais c'est moins direct. Ça prend des petits retards, des petits détours.
Oui.
C'est moins bien. C'est pas mal, mais c'est moins bien.
C'est pas mal, mais c'est moins bien.
C'est 30 ans plus tard. Il y a des expressions, par exemple, joindre les deux bouts, plus lucratif. C'est plus tard que notre auteur.
Ah.
Me semble-t-il.
Oui.
C'est un vocabulaire plutôt...
Plutôt 60 ans plus tard, dans ce cas-là.
Oh, pas 60 ans, mais peut-être 20 ou 30.
C'est aujourd'hui. Ah. Ça a été écrit aujourd'hui.
Bon, vous êtes d'accord sur le décryptage de ce début, on va vous proposer la fin.
La fin, Martin fut condamné pour usurpation d'identité. Et comme personne ne s'était soucié de son zèle exterminateur, il purgea sa peine légère, le cœur léger.
Mmh. Alors, ce légère et ce léger répété, ça vous mène où, Jacques Jouet ?
Ben, là encore, c'est plus explicatif que le premier texte qu'on a entendu. Donc je suis beaucoup moins convaincu. Alors le léger, oui bien sûr, ça donne un petit accent.
Marcel Aimé ?
Non.
Non, un petit accent quoi alors ?
Un petit accent rigolo, oui, pour essayer de faire Marcel Aimé, mais je ne crois pas que Marcel Aimé aurait fait ça.
D'accord.
J'ai l'impression, c'est difficile
vous convaincre. Vous n'avez pas entendu tous les textes le moment. Patrice Delbourg, même impression que celle de Jacques Jouet.
J'étais d'accord sur l'expression de Jacques quand il parlait d'un style impassible.
Oui.
C'est vrai que Marcel Aimé, avec ses yeux en capote de fiacre, avec son visage de vieux bonze comme ça, rien ne bouge. Et là, brusquement, zèle exterminateur.
Oui.
Ça, c'est hors champ. Ça n'appartient pas à
lui. C'est du Buñuel, c'est pas du Marcel Aimé. Là. C'est pas possible.
Ah, bon. Troisième lecture, vous aurez un second tour. Hein.
Ah, j'espère.
Peut-être même pas la peine.
Peut-être même un autre.
Lecteur Patrick Beignet.
À 37 ans, Martin eût été le plus heureux aide-comptable de la rue Réaumur s'il avait gagné 100 francs de plus. Avec cette somme, il aurait fait taire les récriminations de sa femme.
Mmh.
Et la fin ? Ainsi, le faux policier fut-il condamné à 2 ans de prison. C'était peu au regard de ce que nous savons. Sa femme trouva pourtant que ce n'était pas suffisant.
Ah, ça c'est drôle.
Oui, c'est drôle.
Oui, alors...
C'est pas mal fait.
C'est la malice de Marcel Aimé.
Oui, c'est drôle, c'est vrai.
Le UTT en entrée de jeu de nouvelles de Marcel Aimé, j'y crois pas trop.
Ah oui.
Tout le monde peut se tromper, mais j'y crois pas trop.
UTT, pas très Marcel Aimé. Je prends des notes pour vous dire ça à la fin.
Non, les consignes sont là, c'est vrai.
Oui.
C'est assez fidèle. La rue Réaumur est là, elle serpente, elle bourdonne, elle graillonne avec ses vendeurs de journaux. C'est la rue Réaumur. Mais est-ce qu'elle est vraiment là dans le texte ? Peut-être pas.
Oui, je confirme. Oui.
C'est vraisemblable, parce qu'on n'aurait pas eu 3 rues Réaumur si...
Oui, à mon avis, à moins qu'ils se parlent pendant qu'ils écrivent et qu'ils vous tendent des petits pièges, ça, c'est pas impossible. Donc, pour le moment, vous n'avez pas vraiment situé Marcel Aimé. Et vous n'avez rien attribué à vos camarades Mordilla, Vallée et Beignet. Hein ? Mais le second tour devra trancher. Alors j'ai un texte en main. Est-il de Marcel Aimé, de Gérard Mordilla, de Jacques Vallée, de Patrick Beignet ? À vous de dire. Marié, père de 3 enfants, Martin gagnait 3500 francs par mois à faire des additions dans une maison de commerce de la rue Réaumur. Et comme il faut bien vivre, il était également faux policier à ses moments perdus. commentaires sur ce début.
Le salaire me paraît bizarre, mais...
3500 francs par mois.
Oui.
C'est quelle année ?
3500 francs début des années 50, ça me paraît étrange.
Ça vous paraît cher ?
Cher payé, oui.
Cher payé, bien payé.
Enfin, je sais pas. Hein,
mais... Donc, il n'aurait pas eu besoin d'avoir un second job, c'est ça ?
Je trouve que c'est risqué de s'engager dans la citation d'un salaire.
Je marque trop bien payé.
Ça oblige à... Enfin, la nouvelle risque de vieillir assez vite. Je ne pense pas que Marcel Aimé aurait fait ça.
Et puis alors
Patrice
là,
Delbourg.
La musique de la phrase, ce n'est pas le ton, ce n'est pas la manière, ce n'est pas la facture de Marcel Aimé. Marcel Aimé, c'est plus sec, c'est plus au ras des, sur l'os. Là, c'est beaucoup plus enrobé, beaucoup plus suave, le ton de cette phrase.
D'accord.
Donc ça ne semble pas être du résus Marcel Aimé.
D'accord. Bon, vous allez écouter la fin. Quoi qu'il en soit, Martin fut condamné à 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour. Tout porte à croire que cette mésaventure lui aura servi de leçon et qu'il saura retrouver plus tard l'usage de ses dons de faux policiers.
Tout porte à croire, non.
Tout porte
non,
à croire,
non. Non, ça c'est Colette, c'est une autre littérature, mais ça c'est pas Marcel Aimé, ça.
Oui, Jacques Jouet, vous faites la moue aussi.
Fin poussive.
Fin poussive.
Non, c'est pas possible. Mais c'est pas possible, ni que ce soit Marcel Aimé, ni que ce soit l'un des trois auteurs qui sont là.
Oui, non, parce c'est... qu'avec ce joli compliment fin possible, effectivement, on rentre seul, on déjeune seul. Écoutez, un deuxième tour de table, même un second, puisqu'il sera le dernier. Et là, il faut trancher à chaque lecture et vous y tenir. Il faut assumer son choix.
Soit.
Donc écoutez attentivement ces délicieux textes, quand même, ils sont délicieux.
Bon,
il y a des petites critiques par-ci par-là de votre part, mais...
Non, vraiment, c'est un travail d'orfèvre. Ils sont méritants, parce que vraiment, ils viennent de loin tous.
Ils viennent de loin, ils viennent d'où ?
C'est un travail d'orfèvre. Vous savez, les orfèvres, il y a des bons orfèvres et des orfèvres...
Bon, Gérard Mandilla.
Le début. Martin occupait la profession d'aide-comptable dans une officine... au deuxième étage de la rue Réaumur. Ses maigres émoluments ne suffisant pas à nourrir femmes et enfants, il s'inventa policier pour améliorer l'ordinaire. La fin. Martin n'entendit pas le président du tribunal l'accuser d'avoir souillé l'honneur de la police et trahi les siens. Il reçut la sentence sans broncher. 3 ans ferme, ça lui ferait des vacances avant de se remettre au travail.
Alors Jacques Jouet, vous n'aviez pas écarté Marcel Aimé du tout, vous aviez dit que c'était une écriture impassible qui ressemblait assez à la sienne.
C'est Marcel Aimé.
C'est Marcel Aimé, là vous êtes certain.
Oui, bien sûr. Et comment commence le texte ? Par le nom du personnage, Martin, d'emblée.
Oui.
Pas d'hésitation.
Ça c'est souvent le cas chez Marcel Aimé.
Je ne sais pas.
Ça, c'est un argument.
La fin également commence par le nom du personnage, Martin.
Donc,
la dernière phrase.
Aucun de vos camarades n'aurait fait ça, c'est Marcel Aimé lui-même.
Oui, je pense.
Très bien, c'est bien parce qu'il y a un vrai argument. Patrice Delbourg, votre opinion. Alors vous, vous aviez dit, oui. Souiller l'honneur de la police, oui. Ça ne peut pas être du Marcel Aimé.
Ça peut pas, mais ça peut l'être. Parce que ce qui est venu ensuite, ça s'est dégradé, les autres versions.
Ah oui. Vous aviez dit c'est pas assez
C'est-à-dire,
acide.
Marcel Aimé était tellement haut comme ça sur ma pile.
Oui.
Et puis ensuite ce que j'ai entendu, ça s'est un petit peu délité. Donc je crois aussi comme Jacques que c'est Marcel Aimé ce premier texte.
Bon.
Un peu par défaut, j'aurais préféré que ça soit un petit, mais c'est Marcel Aimé, oui.
D'accord. Donc si vous triomphez, ce sera ensemble. Si vous chutez, ce sera en vous tenant par la main. On verra. Deuxième lecture, deuxième lecteur, Jacques Vallée.
Début. Petit employé dans une maison de commerce de la rue Réaumur, Martin avait du mal à joindre les deux bouts. Aussi, soucieux de protéger sa femme et ses 2 enfants, il éprouva le besoin de prolonger son activité par un second métier, plus lucratif.
La fin.
Martin fut condamné pour usurpation d'identité. Et comme personne ne s'était soucié de son zèle exterminateur, il purgea sa peine légère, le cœur léger.
Alors, ce peine légère, cœur léger vous a fait sourire, c'était joli. Mais vous avez dit qu'il y avait des expressions comme joindre les deux bouts qui n'étaient pas du tout de l'époque Marcel Aimé. Lucratif aussi.
Alors, exterminateur.
Oui, zèle exterminateur. Ce serait trop écrit pour être du... Il y aurait trop de vocabulaire pour être du Marcel Aimé, non?
Un peu décalé, un peu...
Oui.
Un petit peu...
Pas ce vocabulaire à cet endroit-là, à ces endroits-là du texte. D'accord. C'est ça qui me...
Ce serait plutôt au milieu de la nouvelle.
Par exemple.
Oui.
Ça mais alors
qui
nous.
Qui bah c'est
oui.
ça
qui oui, oui. Y a un... Entre Gérard Mandia, Jacques Vallée et Patrick Bénéty.
Il y a un néo-langage, comme disent les... qui saupoudre un peu par-ci, par-là, lucratif, exterminateur, joint les deux bouts, tout ça, c'est des choses qui sont un peu à côté de l'univers de Marcel Aimé. Mmh. Donc oui. Lequel des trois? Là, on va se mettre à dos quand même de nos camarades, certainement.
Oui. Oh bah, on a le droit d'employer un néo-langage.
Oui,
et,
oui.
Et voilà.
Bon, ça ne souligne pas non plus l'honneur de Marcel Aimé. Faut
non.
Pas...
non, non.
Non, je vais. Ben voilà, je pense que c'est un texte de Patrick Beignet.
À cause du néo-langage?
Non, non, Patrick a voulu être. Être assez simple. En plus, il nous a dit qu'il n'avait jamais lu Marcel Aimé. Donc,
oui. Donc, c'est l'exterminateur, pour lui, alors, ça le faisait.
Oui, oui.
Oui, bon, ça, c'est un argument, pas très littéraire,
il
plus
trompé,
sur la psychologie de Patrick Beignet.
On va pas l'accabler non plus.
Non, non, c'est un charmant camarade. Patrice Delbourg, pour
j'avoue
vous.
Que j'avais couché aussi, si j'ose dire, Patrick Beignet,
ouais.
Parce que l'ange exterminateur bunuvlédien dont on parlait. Mais bon, comme je ne veux pas me ranger sur les traces de Jacques, je vais dire Gérard Mandia.
Et puis le côté joindre les deux bouts, c'est une des préoccupations de Gérard Mandia.
Aussi, bien sûr,
depuis
longtemps.
Vive la sociale, des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts.
C'est une préoccupation qui est assez partagée.
Oui, son adolescence bitumeuse.
Pas si loin de la rue Réaumur, d'ailleurs.
Oh bah, Gérard, entre la rue des Rigoles et la rue Réaumur,
ouais,
c'est
y
direct.
Oui, il y a combien direct. De stations de métro? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, et bien nous avons un Patrick Beignet pour Jacques Jouet, un Gérard Mandia pour Patrice Delbourg, et on passe à la troisième lecture. Troisième lecteur, Patrick Beignet.
À 37 ans, Martin eût été le plus heureux aide-comptable de la rue Réaumur s'il avait gagné 100 francs de plus. Avec cette somme, il aurait fait taire les récriminations de sa femme. La fin ? Ainsi, le faux policier fut-il condamné à 2 ans de prison. C'était peu au regard de ce que nous savons. Sa femme trouva pourtant que ce n'était pas suffisant.
Alors, cette petite malice de la fin, la femme qui est bien contente de se débarrasser de son mari, finalement, qui veut parler en premier, Jacques Jouet?
Ben là, le personnage de la femme est très présent.
Oui.
Je pense que c'est Jacques Vallée qui a écrit.
À cause de la femme?
Oui, les récriminations de la femme.
Ah oui, c'est pour ça qu'il vit tout seul.
Les termes, les récriminations de la femme, je ne vois pas ça sous une autre plume que celle de Jacques Vallée. Enfin, parmi ces trois qui sont devant nous.
Oui. Ah ben, je note ça, hein.
C'est une phrase très valétienne, les récriminations de la femme.
Ah oui. Bon, mais écoutez, c'est votre opinion et celle de Patrice Delbourg, alors.
En dépit du fait qu'il a porté ce texte de façon un peu embêtée, comme ça, avec un visage un petit peu tendu, je pense que Patrick Beignet lit son propre texte.
Ah, alors, un argument pour, quand même, au niveau du
simplement,
style.
Simplement, je l'ai contemplé quand il lisait ce texte. Je l'ai regardé profondément. Et vraiment, on a l'impression qu'il éjectait son texte en même temps qu'il le lisait. C'est un bel exercice d'acteur qu'il nous a offert, d'ailleurs, que les auditeurs ne
Et il faudrait qu'on ait une vidéo, pas, mais, évidemment. Oui.
Il avait vraiment l'air embêté de lire ce texte. Et ça, c'est fort.
C'est sa pudeur.
C'est sa pudeur et sa malice.
Qui le trahit et sa malice. Bon, eh bien, vous n'étiez d'accord que sur le premier. Pour le moment, on va voir si vous rejoignez sur le dernier que je vous lis. Marié, père de 3 enfants, Martin gagnait 3500 francs par mois à faire des additions dans une maison de commerce de la rue Réaumur. Et comme il faut bien vivre, il était également faux policier à ses moments perdus. La fin, quoi qu'il en soit, Martin fut condamné à 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour. Tout porte à croire que cette mésaventure lui aura servi de leçon et qu'il saura retrouver plus tard l'usage de ses dons de faux policier. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Patrice Delbourg, tout porte à croire, ça fait très Colette. Et vous, Jacques Jouet, vous trouviez que 3500 francs pour l'époque, c'était trop bien payé. Enfin, il y avait quelque chose au niveau des francs qui vous gênait. On ne spécifie pas que ce soit des anciens.
Ça me gêne toujours.
Ça vous gêne toujours?
Oui, il ne reste plus qu'un nom que je n'ai pas attribué.
Oui, exact.
Donc Gérard Mandia aime beaucoup rêver sur les hausses de salaire. Donc là, c'est évident que c'est lui qui a fait cette hypothèse que ce garçon gagne 3500 francs par mois.
C'est un rêve.
Un doux rêve.
Un doux rêve. Et pour vous, Patrice Delbourg ?
Dans un premier temps, on évoque les 3500 francs.
Oui.
Et puis ensuite, on parle des moments perdus, ces heures creuses comme ça. Mmh. Les piétons un petit peu somnambules dans la ville de Paris. Et qui représente cela ? Parmi nos rédacteurs,
oui.
Jacques Vallée, qui est quand même un grand piéton, un grand passant dans les rues. Bon, les heures creuses, il les connaît, il les accumule comme des vertèbres. Et puis 3500 francs, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même la réalité, la dureté de la vie formica. 3500 balles, quand même.
C'est pas rien,
c'est donc Jacques Vallée.
Bon.
À mon sens.
Oh, mais écoutez, c'est... Très brillamment argumenté de votre part à tous les deux. Alors, écoutez, c'est l'heure des bilans. Hein. Donc, on va demander qui a en main le vrai Marcel Aimé. Eh bien, c'est moi, figurez-vous. Aïe, aïe, aïe. Je le relis. Marié, père de 3 enfants, Martin gagné 3500 francs par mois à faire des additions dans une maison de commerce de la rue Réaumur. Et comme il faut bien vivre, il était également faux policier à ses moments perdus. C'est la fameuse écriture impassible.
Mais il n'était pas en forme, Marcel Aimé, quand il a écrit cette nouvelle. Alors là, je suis désolé. Hein.
Est-ce que c'est un fond de tiroir, Odile Conseil ? Non.
Non, je ne pense pas. C'est dans un recueil qui est quand même très connu. Et
Moi, je trouve ça bien.
Moi aussi. Je veux bien gagner 3500 francs par mois.
Alors, la fin, quoi qu'il en soit, Martin fut condamné à 2 ans de prison et 5 ans d'interdiction de séjour. Tout porte à croire que cette mésaventure lui aura servi de leçon et qu'il saura retrouver plus tard l'usage de ses dons de faux policier. Oh, il fait la grimace, Patrice Delbourg.
Ah oui, non, la dernière
il
phrase.
Il est déçu. Non,
pas possible, on dirait un discours d'assesseur à un tribunal d'enfants.
Ah, quelle déception.
C'est très factuel.
Ah oui, c'est plus que factuel. Ah,
non, quelle déception.
Ah oui, triste. Hein.
Ah oui, franchement.
Bon, bah alors, c'est un premier zéro. Hein.
Bah oui, pour Marcel Aimé, zéro. Alors là.
Pour Monsieur Jouet, Monsieur Delbourg également.
Oui, oui, ça va.
On reprend les lectures dans l'ordre. Gérard Mordilla, vous nous faites le plaisir de relire le texte. Et après, vous nous direz de qui il est.
Martin occupait la profession d'aide-comptable dans une officine au 2e étage de la rue Réaumur. Ses maigres émoluments ne suffisant pas à nourrir femmes et enfants, il s'inventa policier pour améliorer l'ordinaire.
Magnifique.
Magnifique, mais ce n'est pas du Marcel Aimé. Vous avez voté
ça,
tous les deux
pour
Marcel Aimé, ce n'est pas de lui.
C'est l'oreille.
Oui,
et la fin. Martin n'entendit pas le président du tribunal l'accuser d'avoir souillé l'honneur de la police et trahi les siens. Il reçut la sentence sans broncher, 3 ans ferme, ça lui ferait des vacances avant de se remettre au travail.
Et c'est de qui ?
C'est de moi.
De Gérard Mordilla. Ah, oh, mon Dieu.
Non, j'ai des doutes, là. Ah, bravo.
Ça fait vos 2e zéros, dites-moi. Oui. Gérard Mordilla, ça fait quel effet d'être pris pour Marcel Aimé ?
Je reçois ça avec humilité et plaisir.
Oui, évidemment, c'est un bonheur qu'il faut garder précieusement contre votre cœur. Jacques Vallée, vous avez lu un texte qu'on va réécouter avec beaucoup de plaisir.
Petit employé dans une maison de commerce de la rue Réaumur, Martin avait du mal à joindre les deux bouts. Aussi, soucieux de protéger sa femme et ses 2 enfants, il éprouva le besoin de prolonger son activité par un second métier plus lucratif.
Oui.
Et enfin, Martin fut condamné pour usurpation d'identité. Et comme personne ne s'était soucié de son zèle exterminateur, il purgea sa peine légère, le cœur léger.
Alors, ce léger, vous l'avez attribué, Jacques Jouet, à Patrick Beignet, vous, Patrice Delbourg, à Gérard Mordilla, donc oui. Ça, c'est faux, bien sûr. Oui. Est-ce que Jacques Jouet aurait gagné avec Patrick Beignet ?
Non, c'est de Jacques Vallée.
Oh, mon Dieu ! Oh, ça s'annonce très très mal. Hein.
C'est assez brillant comme expertise.
Ça s'annonce très très mal. Pourtant, vous aviez d'excellents arguments, je trouve.
Oui.
C'est quand même fou. Vous êtes sûr des... Il n'y a pas une erreur dans les fiches.
Mais ils étaient tellement sûrs d'eux.
Mais oui.
C'est
oui.
Ça le problème.
Mais oui, mais c'est ça qui est joli à ce jeu. C'est qu'on a le droit de se tromper. C'est un jeu. Jouer, c'est un plaisir.
Mais se tromper avec aplomb.
Eh bien, c'est touchant.
Oui.
C'est touchant parce que se tromper en étant pas sûr, finalement, c'est pas très drôle. Non, non, c'est bien. Vous avez des jolis zéros bien mérités, mais quelque part, vous valez beaucoup mieux. Alors, on a une autre lecture, une quatrième lecture, c'est celle de Patrick Beignet.
À 37 ans, Martin eût été le plus heureux aide-comptable de la rue Réaumur s'il avait gagné 100 francs de plus. Avec cette somme, il aurait fait taire les récriminations de sa femme.
Il aurait gagné 3600 francs alors. Mais...
Ainsi, le faux policier fut-il condamné à 2 ans de prison. C'était peu au regard de ce que nous savons. Sa femme trouva pourtant que ce n'était pas suffisant.
Alors, cette lecture de Patrick Beignet, Patrice Delbourg, vous l'avez attribuée à un texte écrit par Patrick Beignet.
Parce que je l'ai regardé. Oui. Et là, le mime était presque parfait. Bon. Il était tellement dépité de lire ce texte, je me suis dit que ça ne peut être que de lui.
Quant à Jacques Jouy, il l'a attribué à Jacques Vallée, cause des récriminations de la femme.
Bah, bien sûr.
Et oui, et il est de...
Eh bien, le bref instant de lucidité qu'a analysé Patrice Delbourg, c'était bien ça, le texte est de moi.
Il est de Patrick Beignet. Et Patrice Delbourg marque in extremis un point. C'est formidable.
Le mime me sauve de la famille.
C'est formidable. Quant à Jacques Jouy, il avait décidé de faire zéro. Il a ses 4-0.
Ouais, mais pourtant, c'était pas mal vu, pourtant.
C'est quasiment les anneaux olympiques.
Qu'est-ce que vous avez pensé des pastiches et des experts, Odile Conseil?
J'en ai pensé beaucoup de bien. Dans l'ensemble. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait le coût des 3500 francs était très piégeux. Oui. Parce que c'est extrêmement risqué d'annoncer un salaire dans un texte comme
c'était
ça.
C'était osé.
Mais je pense que le texte qu'a lu Gérard Mordia, il a un tout petit défaut qui devrait faire penser que c'est pas Marcel Aimé, c'est qu'il est au deuxième étage de la rue Réaumur. Il aurait dû indiquer un numéro au deuxième étage du 17 rue Réaumur ou du 39 rue Réaumur.
Oui, là, mais nos experts n'ont pas
Il y avait une possibilité
ça.
De voir que ce n'était pas Marcel Aimé.
Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai distribué les textes les yeux fermés et que chacun d'entre vous est tombé sur son propre texte. Alors ça, je ne comprends pas.
C'est Nana Bozo, le grand lapin, qui est intervenu.
C'est possible et ça ne les a pas du tout influencés en quoi que ce soit d'ailleurs. Vous reviendrez jouer une autre fois?
C'est pas sûr. Jamais. Parce que si vous tripatouillez comme ça les fiches...
Oui, oui, non, c'était pas clair là.
Des papous dans la tête, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par François Strossard avec Anne de Pelchin et Valérie Lavalard à télécharger sur franceculture.fr à la page des papous du jour. Et pour l'amitié, rejoignez notre page Facebook. On se retrouve dimanche à 12h50. Au revoir, passez un très bel après-midi à l'écoute de France Culture. Vous y serez toujours en bonne compagnie. Ridi di 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 di